première, tout autre chose.
Martine Cornil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur La Première. Aujourd'hui, nous allons parler, entre autres choses, de la migraine en compagnie du docteur Catherine Gélin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, neuropsychiatre. Alors, la migraine, ce n'est pas une céphalée comme les autres. Ce n'est pas un maux de tête, un mal de tête complètement banal. On est bien d'accord avant toute chose. Hein.
Oui, on est bien d'accord. Alors, la migraine fait partie des 13 céphalées différentes qui ont été dictées par la classification internationale des céphalées. Par contre, il est important de préciser d'emblée que c'est une vraie pathologie, c'est une vraie maladie en soi. Elle est manifestement d'origine génétique et il y a donc une importance très claire à la diagnostiquer avec précision parce que la prise en charge ne va pas du tout être la même que pour les autres types de maux de tête.
Alors on va parler des prises en charge, bien sûr, on va parler de la facilité ou de la difficulté d'un diagnostic. Hein. J'ai vu qu'en ce qui vous concerne, en tout cas, c'est au minimum 1h30 de consultation avant de pouvoir déterminer s'il s'agit d'un mal de tête ou d'une migraine. Et puis, rappeler quand même que ça concerne plus de 15% de la population, c'est quand même pas c'est anodin.
Énorme.
Et que c'est une maladie qui peut être extrêmement invalidante, puisque les migraines peuvent durer des heures. Et tout qui a déjà vu ou a déjà subi ce type de mal a peut-être vu, en tout cas moi j'ai vu, j'ai la chance, je touche du bois de ne pas être migraineuse, mais j'ai vu déjà des gens migraineux et ils sont scotchés quoi, il y a plus moyen de bouger par moment.
Dans les grosses crises, hein, maintenant c'est vrai que c'est une des premières causes d'absentéisme, ça coûte une fortune en termes d'absence au travail et c'est vraiment une raison importante pour laquelle on essaye aussi de trouver le maximum de traitements. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des profils qui sont différents en migraine, il y a heureusement quand même des gens qui ont des crises de migraine relativement bénignes et qui s'en sortent assez vite, avec surtout depuis l'avènement des médicaments spécifiques, je suppose qu'on en parlera plus tard, mais c'est vrai qu'il reste des accès migraineux qui peuvent parfois être extrêmement traumatisants et comme vous dites, qui scotchent les gens, où ils sont incapables de bouger de leur lit, tellement la douleur mais aussi l'altération de l'état général est important, parce que durant la migraine il se passe plusieurs choses, non seulement on a extrêmement mal à la tête mais on est aussi réellement malade. 90% des migraineux ont beaucoup de nausées, voire des vomissements. Ils sont très syncopaux, ils ont un aspect vagal, les sueurs, pâleurs et impression comme ça de tomber en syncope. Ils peuvent avoir aussi des diarrhées. Enfin, c'est vraiment une altération de tout le corps qui se présente. Donc, ce sont des gens qui sont très, très invalidés.
Ouais. Alors, on va parler de tout ça, bien sûr, évidemment, avec nos auditeurs. Cette émission est interactive. Comme à chaque fois, quand il s'agit d'un sujet médical, nous ne ferons pas ici de consultation individuelle et nous tenterons de partir du particulier pour arriver au général. Alors 02 737 26 06, c'est le numéro de téléphone que vous composez et c'est Sandra Veras qui vous accueille aujourd'hui. Par mail, c'est www.lapremière.be, mail ou courriel, choisissez votre dénomination. Et puis par SMS, c'est au 6031, cela vous coûtera 50 centimes le message. On va écouter un très court reportage réalisé par Essentiel Santé, puis vous réagirez juste après. Docteur Gélin, alors ce reportage nous explique quels sont notamment les symptômes annonciateurs et qu'est-ce qui peut limiter les facteurs aggravants et l'intensité de la crise. On écoute, on revient juste après.
Le mal de tête, tout le monde connaît, mais parfois il ne s'agit pas de douleurs passagères, mais d'un véritable calvaire. Comme une femme sur cinq, Michel voit sa vie gâchée, des crises qui peuvent survenir à tout moment et durer jusqu'à 8 jours, une à deux fois par mois. En 25 ans, les manifestations ont évolué.
Tu vas bien, Michel ?
Ah non, c'est pas le top. Au début, j'avais plutôt des nausées, des vomissements, une grande fatigue qui nécessitait un repos toute la journée. Et aujourd'hui, alors fourmillement dans le nez, coups dans la tempe, et comme là, un contraste alimentaire très gênant.
Les femmes ne sont pas les seules concernées, les hommes et les enfants aussi. Beaucoup ne s'identifient pas comme migraineux. Le fatalisme conduit souvent à une minimisation et à un non-diagnostic, mais s'adapter n'est pas la solution.
En termes de traitement, il faut savoir que les migraineux et les céphalalgiques utilisent de manière anarchique leurs médicaments. Or, cette anarchie conduit très souvent à une transformation des douleurs et en particulier à la genèse due aux médicaments de céphalées chroniques quotidiennes.
Fatigue, somnolence, irritabilité, en repérant le plus tôt possible les signes annonciateurs de la migraine, il est possible de la désamorcer en limitant les facteurs aggravants.
Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Dr Catherine Gildin, neurologue, neuropsychiatre. À un moment donné, quand même, je vous ai vu faire, au moment où on parlait d'une semaine de douleur, moi j'ai fait « Ah !» et vous avez fait « Non !» de la tête. Alors, nous sommes en radio, donc je traduis.
Oui, oui. Il y a beaucoup de choses à dire en répercussion à ce reportage.
Oui, c'est pour ça qu'il existe.
Oui, voilà. Donc, en fait, j'aimerais bien refaire une définition. Donc, les céphalées, céphalalgie, mal de tête, sont soit primaires, c'est-à-dire sans cause reconnue, soit secondaires, c'est-à-dire dues à une cause extérieure, comme vous pouvez avoir des maux de tête pour une maladie métabolique, parce que vous avez des problèmes aux yeux, des problèmes aux ORL, une tumeur, enfin des choses reconnues. Donc, dans la céphalée dite primaire, entre les accès des crises, on est en bon état général. Okay, ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a comme céphalée primaire? Il y a la migraine, le cluster headache et les céphalées de tension. Donc, la migraine en soi doit répondre à certains critères qui sont, d'abord pour être reconnu comme un patient migraineux, donc faisant partie de la maladie migraineuse, il faut en avoir fait 5 accès dans sa vie. C'est-à-dire que tout le monde peut potentiellement en faire une crise de migraine dans sa vie sans développer la maladie migraineuse, si vous voulez. Alors, une migraine, c'est une céphalée qui est d'intensité modérée à sévère, qui arrive relativement rapidement, mais pas de façon aiguë, et qui dure, selon les critères, entre 4 et 72 heures. C'est pour ça que j'ai tiqué quand la patiente a dit 8 heures. Et c'est une céphalée qui, migraine, ça veut dire hémicranie, théoriquement, touche la moitié de la tête, qui a un aspect le plus souvent pulsatile, c'est-à-dire comme si on a un cœur qui bat dans la tête. Cet aspect pulsatile doit être majoré par un effort physique bénin comme monter les escaliers, porter une charge lourde, et est accompagné le plus souvent de nausées, voire de vomissements, et de photophobie, donc d'une intolérance à la lumière et d'une intolérance au bruit. Mais donc le critère de durée est important, et entre les crises, on ne doit rien avoir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dit « ma migraine, entre guillemets, a duré 8 jours » C'est qu'on arrive dans un problème secondaire, qui a été aussi d'ailleurs déjà annoncé dans ce reportage, c'est que les gens utilisent de manière tout à fait erratique et abusive leurs antalgiques, c'est-à-dire que, bon, on peut comprendre, ils ont mal à la tête, ils prennent un médicament, mais finalement, ils arrivent à le prendre trop souvent, trop fréquemment, à la limite, il y en a qui en prennent presque en préventif, si vous voulez, et alors, de façon apparemment étonnante, mais qui s'explique par un phénomène d'addiction, les antidouleurs finissent par provoquer la douleur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le corps s'habitue à un taux de votre antidouleur, dès que ce taux diminue, la douleur, la céphalée recommence et donc on reprend. Ça s'appelle les céphalées d'auto-induction qui font partie des critères de la liste que j'ai énumérée tout à l'heure. Et alors on arrive dans des cas dramatiques de patients qui auto-entretiennent leur migraine, mais qui perdent aussi des caractéristiques vraiment migraineuses vraies. Ça devient des céphalées beaucoup plus diffuses, bien sûr plus continues, beaucoup plus permanentes.
Mais donc tout le temps, je veux dire, il y a des gens qui ont un mal de tête en permanence.
En permanence. Donc la céphalée chronique continue est quelque chose absolument dramatique. Les gens ont statistiquement à peu près mal 200 jours par an. Donc c'est vraiment
énorme.
Et c'est quelque chose qui doit être absolument... Il faut prévenir les gens de ça et il faut les traiter. Souvent, même parfois, on doit les hospitaliser pour faire des sevrages, de réels sevrages par perfusion, pour arriver, si vous voulez, à dégager de ces céphalées d'auto-induction. Et puis alors retrouver leur profil personnel, parce que chaque patient est migraineux ou une autre type de céphalée selon des caractéristiques qui lui sont propres, qu'il faut reconnaître et à partir de là, lui proposer le type de traitement qui lui sera adéquat. Donc le reportage a déjà, si vous voulez, parlé de ces gens qui utilisent de façon abusive les traitements. Alors il est dit deux choses aussi importantes dans ce reportage. C'est vrai qu'il y a à peu près 4 femmes pour un homme à l'âge adulte de migraine. Chez l'enfant, c'est un peu plus les garçons que les filles. Et puis, c'est vraiment important de le savoir, il y a quand même 5% des enfants qui sont migraineux. Je parle de migraine, pas de céphalée.
Oui, enfin, ce sont des chiffres qui m'étonnent.
Oui.
Je trouve ça impressionnant, en tout cas.
C'est impressionnant.
On a une question précise ici, et puis j'aimerais qu'on parle du diagnostic,
oui.
qu'on dise, qu'on fasse bien la différence entre les choses. Isabelle qui pose cette question. Je voudrais savoir si la prise de la pilule contraceptive peut augmenter les symptômes migraineux.
Oui, alors ça, c'est quelque chose de très particulier qui est lié à la migraine, c'est qu'elle est très hormonodépendante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plus de migraines chez les femmes que chez les hommes. C'est lié aux hormones féminines et notamment, il y a à peu près trois quarts des migraineuses qui ont des crises liées à leurs règles. Ça s'explique par la chute importante de l'estrogène au moment des règles. Et un des traitements qu'on peut donner d'ailleurs, c'est de faire continuer de l'estrogène durant la semaine d'arrêt de la pilule. Alors, il y a certaines pilules qui peuvent... au contraire, augmenter. Il y en a qui peuvent diminuer, il y en a qui peuvent augmenter. Pourquoi ? Parce que ça dépend du type d'hormone qui est mis dans la pilule. Et donc là, il faut pouvoir en reparler avec son médecin ou avec son gynécologue, parce que certaines pilules vont améliorer les pathologies migraineuses et d'autres vont les aggraver.
Alors, avant de parler du diagnostic, il y a déjà plein de questions, donc je les pose. Ici, et c'est dans le droit fil de ce qu'on vient de dire, une auditrice qui nous dit « Je suis enceinte, je viens d'avoir une migraine, quel traitement ?»
Alors, quand on est enceinte...
ne pas prendre n'importe quoi comme médicament.
Sûrement pas. Alors, c'est vrai que ça, c'est aussi intéressant parce qu'il y a des femmes qui n'ont vraiment plus aucune crise quand elles sont enceintes. Et d'autres, au contraire, qui en développent tout plein. Donc, vous voyez que c'est pas encore très, très clair. Le rôle des hormones n'est pas encore clairement défini. Alors, théoriquement, ça dépend à quel stade de grossesse elle est. Si elle est dans les trois premiers mois, il vaut mieux éviter tout. Par la suite, le paracétamol est le seul indiqué.
Alors ici, quelqu'un qui dit « j'ai la chance de faire partie des 15% de Belges migraineux » et la seule solution que j'ai trouvée pour passer au travers est une meilleure gestion de mon sommeil. J'ai en effet fait le constat que chaque fois que je fais une crise de migraine, c'est dû au manque de sommeil. Depuis que je gère mieux ce sommeil, c'est-à-dire que j'arrive à percevoir que je suis fatiguée, je vais alors me coucher plus tôt, j'ai considérablement diminué les crises, plus que deux ou trois par an à la place d'une par mois. Relation entre sommeil et migraine.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la migraine, donc, comme on l'a dit, il y a une prédisposition génétique à la faire. Donc, si vous voulez, c'est un talon d'Achille qu'on a et qui peut se déclarer même sans raison. Par contre, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible à certains facteurs favorisants. Mais il est très important de comprendre que ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque migraineux a en général entre 1 et 4 facteurs favorisants qui sont des choses qui vont favoriser la genèse de sa crise. Mais ce ne sera pas le même pour un autre migraineux. Par exemple, on a fait mauvaise presse du chocolat et c'est vrai que malheureusement, il y a un migraineux sur deux qui est sensible au chocolat. Mais heureusement aussi, il y a un migraineux sur deux comme moi qui ne l'est pas. Je suis migraineuse et j'adore le chocolat et heureusement, ça ne le provoque pas. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont personnelles. On ne sait pas pourquoi, ce qui se passe dans le corps, il y a une certaine sensibilité. Ce n'est pas du tout un phénomène d'allergie, il ne faut pas confondre, c'est une sensibilité. Alors, les grands générateurs de migraines, c'est le stress, la fatigue et bien sûr l'accumulation des deux, comme souvent dans notre société, et les hormones chez les femmes. C'est vrai que les gens qui ont un mauvais sommeil et qui sont migraineux vont en faire beaucoup plus. Maintenant aussi, le manque de sommeil, vous rappelez, on avait fait une émission sur le sommeil, le manque de sommeil en soi provoque des céphalées. Et donc les gens qui se réveillent avec des maux de tête le matin, même pas d'allure migraineuse, doivent toujours s'interroger sur la qualité de leur sommeil.
Alors, pour distinguer céphalées et migraines, quelqu'un qui nous écouterait, qui dit « Tiens, moi, j'ai eu mal à la tête, par exemple, la semaine dernière, et c'est vrai que c'était embêtant, et c'est vrai que c'était assez violent. Est-ce que pour autant, il doit s'inquiéter d'être migraineux ou pas ? Comment est-ce qu'on fait la distinction ? Comment ça se passe, un diagnostic ? Comment est-ce qu'on pose un diagnostic de, voilà, vous êtes un patient, une patiente migraineuse ?
Eh bien, justement, c'est un diagnostic purement d'anamnèse, c'est-à-dire d'interrogatoire. Parfois, on a recours à certains examens complémentaires lorsqu'on a un doute. Quand je disais, la première chose quand on voyait un patient qui vient se plaindre de mal de tête, c'est dans sa tête se dire, est-ce que c'est une primaire ou une secondaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez le moindre doute d'une céphalée secondaire, c'est-à-dire symptomatique de quelque chose d'autre, là, vous courez aux examens complémentaires. Si vous êtes dans le cadre de céphalée primaire, c'est purement l'interrogatoire qui va nous orienter. Alors cet interrogatoire se base justement sur les critères diagnostiques qui ont été émis par cette société internationale expert dans un listing qui est sans cesse revisité d'ailleurs. On a des publications régulières avec des modifications en fonction justement de l'évolution des connaissances, qu'elles soient cliniques ou paracliniques. Et donc, si vous voulez, on va faire un petit peu l'addition des différents symptômes en se disant, oui, on rentre dans le cas d'une migraine. Évidemment, s'il correspond à ce que je vous ai cité tout à l'heure des critères, le migraineux typique, c'est assez facile, c'est assez rapide. Et on dit, OK, voilà, et on est dans ce cas de figure-là. Si c'est quelqu'un qui a des migraines intriquées, par exemple, on a souvent une intrication de migraines et de céphalées de tension. Alors, la céphalée de tension, c'est une tension musculaire anormale, surtout au niveau des muscles du cou et du scalp, qui est favorisée par le stress, parce que comme nous sommes des êtres debout, nous mettons tout le stress dans ces pauvres petits muscles qui doivent porter les 7 kilos que fait une tête. Et puis, c'est vrai aussi que d'avoir mal à la tête, ça provoque des contractures musculaires et que quand on est stressé, etc., etc., il y a une espèce de cercle vicieux épouvantable. Et puis alors, l'arthrose de la nuque, qui ne développe pas, hein, tout le monde à partir de 35 ans commence à avoir un peu d'arthrose. Donc, l'arthrose de la nuque majore les céphalées de tension. Et il y a une intrication entre les céphalées de tension et la migraine. Et ça s'explique anatomiquement parce que dans le processus migraineux, on peut parler de la physiopathologie si vous voulez, ça je vous laisse juge de me guider, mais donc dans le processus migraineux, il y a implication du nerf trijumeau qui est un nerf très très largement représenté dans le système nerveux et qui descend très bas au niveau de la colonne cervicale et qui a des ramifications avec les nerfs de la nuque. Et donc, on peut avoir association de migraines et de céphalées de tension qui rend les choses beaucoup plus compliquées et qui rend le traitement beaucoup plus large et beaucoup plus étendu. Et donc, c'est vrai, quand vous disiez en rigolant, et c'est vrai, parfois, mes patients m'appellent Sherlock Holmes parce que je pose tellement de questions et ça dure une heure, voire plus, tellement il faut faire la part des choses pour pouvoir les guider correctement.
Je vais vous appeler Sherlock Holmes à partir de maintenant.
Alors...
Cher Holmes. Alors, Stéphane qui nous envoie ce courriel. J'ai été migraineux, enfin je le suis encore quelque part, car on reste, nous dit-il, toujours un migraineux potentiel. Durant plus de 15 ans, j'ai couru bien des médecins dans des disciplines très différentes sans succès. Et puis la délivrance, un homéopathe m'a prescrit un complexe de drainage à prendre 2 fois par an. Et depuis, les migraines ont disparu depuis presque 20 ans. Sauf quand par distraction, j'ai oublié de prendre le remède dans les temps. Et à ce moment, elles reviennent. D'autres médecins avaient déjà cherché du côté de l'élimination des toxines, mais n'avaient visiblement pas trouvé le bon remède. C'est tellement pénible que je ne remercierai jamais assez ce monsieur de m'avoir délivré. Voilà, ça c'était le message de Stéphane. Eric, ici, qui pose cette question. Est-ce qu'un travail prolongé sur ordinateur peut provoquer des migraines ou est-ce une céphalée? Quels sont les traitements dans les deux cas? Couper l'ordinateur. Non,
Oui, mais en fait, l'ordinateur, c'est bien. On a beaucoup, beaucoup plus de travail depuis qu'il y a l'ordinateur.
Je ne rêverais pas ça.
Non, je fais une boutade, effectivement. Mais les gens s'assoient tellement mal face à leur ordinateur. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on s'installe n'importe comment. Et donc, on a la nuque complètement contracturée, le dos complètement courbé, et on reste dans une position fixe pendant des heures et des heures et des heures, ce qui n'est pas du tout prévu, si vous voulez, par notre corps biologique qui a besoin de mouvement. Donc, ça provoque le plus souvent des céphalées de tension. Mais si quelqu'un a une propension à être migraineux, oui, il peut développer des migraines. D'autant aussi, maintenant ça va beaucoup mieux, mais avant les écrans étaient très scintillants. Et le migraineux peut être sensible à des variations lumineuses. Donc on avait plus de migraines vraies avec les anciens écrans que les nouveaux.
On n'a pas encore vraiment évoqué les remèdes finalement. Alors on sait que la médecine fait des pas de géants tous les ans finalement. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les améliorations qui ont été apportées par exemple ces quelques 10 dernières années?
En fait, ça fait 20 ans qu'on a vraiment une révolution dans le traitement des migraines par l'avènement des triptans. Donc, dans les années 90, les recherches ont mis en évidence que au niveau du noyau du trijumeau, donc ce nerf qui s'occupe de la sensibilité de tout le visage et la face antérieure de la tête, mais aussi la sensibilité à l'intérieur du cerveau des méninges et des artères méningées. Et en fait, on a pas mal au cerveau, on a mal aux méninges. ménage. Mmh. On a une espèce, au départ, de la migraine. C'est un processus très, très interpellant parce qu'il est à la fois neuronal et vasculaire. C'est-à-dire qu'on a une dépolarisation. Donc, vous savez que les cellules nerveuses fonctionnent par potentiel électrique et par chimie. Et on a vraiment une atteinte de ce potentiel électrique qui part de la partie postérieure du cerveau dans la région occipitale, la région de la vision, d'où beaucoup de patients qui ont ce qu'on appelle les auras visuelles, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et qui cette propagation va vers l'avant du cerveau et s'accompagne d'une modification du débit sanguin cérébral. Donc il y a vraiment une modification de l'activité cérébrale au tout départ de la migraine. Et puis cela se traduit par une altération de la circulation au niveau des méninges avec une libération de neuropeptides qui sont des cellules extrêmement irritantes, très inflammatoires. Donc une espèce d'inflammation méningée qui commence à faire très mal. Puis ça se transmet au niveau du noyau du trijumeau avec une altération au niveau de la sérotonine d'une substance qui s'appelle la 5-hydroxytryptamine, d'où le nom de triptan. Et puis là, il y a transmission au niveau des relais de l'information douleur du cerveau. Et donc les triptans, donc quand on a compris ce mécanisme, les triptans vont vraiment agir en modulant cette altération de la 5-hydroxytryptamine. Et donc c'est un traitement anti-migraineux spécifique. Ça ne marche dans aucune autre migraine, aucune autre céphalée, ça y est, je commence. Sauf l'algie vasculaire de la face qui a un champ commun avec la migraine. Donc cet avènement a été vraiment du miracle parce que, comme on agit de façon spécifique, c'est vrai qu'il faut reconnaître que 8 migraineux sur 10 voient leur crise vraiment s'atténuer dans l'heure qui suit.
Vous venez de parler d'algie vasculaire de la face, on a une question justement là-dessus. D'où viennent-elles, nous demande-t-on, pourquoi et comment les soigner?
Alors, d'où elles viennent, on ne sait pas. C'est comme pour la migraine. On ne connaît pas vraiment tout ce qui initie, si vous voulez, ce processus. On pense au niveau de l'algie vasculaire, qu'on appelle aussi le cluster headache, que c'est une problématique au niveau de l'hypothalamus, qui est une zone très, très ancestrale au niveau du cerveau, si vous voulez. Là, on est dans un cas de figure tout à fait différent. Ça touche beaucoup plus l'homme, nettement plus l'homme. C'est une crise extrêmement rapide, en une minute ou deux, d'une douleur fulgurante qui touche non pas l'hémicrâne mais l'hémiface, surtout l'œil, la région de l'œil et de la tempe, et qui s'accompagne de beaucoup de phénomènes dits vasomoteurs, c'est-à-dire que l'œil devient petit, rouge, il larmoie, le nez se bouche, il y a une sudation au niveau de la face, et la douleur est extrêmement invalidante et dure entre 15 minutes et maximum 3 heures. Par contre, malheureusement, elle récidive. Et elle peut récidiver comme ça 3, 4, 5 fois par 24 heures. Et le plus souvent, ça arrive la nuit. Alors, ça leur arrive pendant une semaine, deux semaines, maximum un mois. Et ça arrive souvent au printemps et à l'automne. Et entre ces accès-là, ils n'ont rien. Donc on est dans un cas de figure clinique différent. Par contre, effectivement, les triptans sont efficaces, mais ici on utilise souvent les triptans injectables pour avoir une durée d'action extrêmement rapide.
Alors, Nabila qui nous dit ceci, je suis maman d'une jeune fille de 18 ans qui semble migraineuse. J'ai une gamine de 7 ans qui commence à avoir des maux de tête. Leur papa est atteint de cluster headache, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous. Cela semble donc héréditaire. Mais il est très difficile, nous dit-elle, de savoir à qui s'adresser, où faire les examens. Quel spécialiste pour enfants? On m'a déjà conseillé un ophtalmologue. On ne sait pas comment organiser la prise en charge. Quand on va chez le médecin traitant, il conseille d'abord un médicament, donc c'est du paracétamol, 500, puis après 1 gramme, et puis après on passe encore à autre chose. S'installe alors une dépendance, peut-être juste parce qu'on n'est pas bien dirigé. Quels sont vos conseils?
Mais je vais
aller voir un neurologue.
Oui, voilà. Ben oui, bien sûr. Les céphalées, c'est quand même du grand domaine des neurologues. C'est juste. Alors, c'est vrai que c'est dommage parce que, comme on le disait tout à l'heure, 5% des enfants, c'est beaucoup. Et la migraine peut commencer très, très tôt. On sait qu'elle commence sans doute vers l'âge d'un an, deux ans. Il y a chez l'enfant ce qu'on appelle les équivalents migraineux qu'il faut reconnaître. Un petit de 1 an à 3 ans qui, tout à coup, a une altération de l'état général qui devient irritable et qui a un torticolis spasmodique, c'est un équivalent migraineux. Un enfant de 3, 4, 5 ans qui tout à coup est pas bien et il a des sensations de vertige, voire qu'il reste pas debout, ça peut être un équivalent migraineux.
Okay.
Donc c'est vraiment important de le savoir. L'enfant un peu plus grand, il va surtout se plaindre de mal en frontal, bilatéral, c'est pas une latérale, et alors très très souvent de mal de ventre. Mais contrairement à un mal de ventre d'origine vraiment digestive, ça va passer tout seul. C'est comme une crise de migraine. Ça vient tout à coup, sans raison, et puis ça peut passer tout seul. Donc il faut pouvoir y penser. Et puis bien sûr, il y a les maux de tête aussi, qui sont peut-être moins spécifiques. Alors c'est vrai qu'il faut, chez l'enfant, il faut aller peut-être plus rapidement à des examens complémentaires, parce que l'interrogatoire d'un tout petit est moins aisé. Mais s'il y a des antécédents familiaux, comme dans cette histoire, oui, bien sûr, il faut penser à la migraine, et il faut traiter le plus souvent comme une migraine, et si c'est récidivant, avec des traitements de fond.
Et ne pas hésiter à aller voir un neurologue.
Et voir un neurologue.
Ou un neuropédiatre.
Ou un neuropédiatre, bien sûr. Bien sûr.
Alors, ici, je suis migraineuse depuis 20 ans, j'ai eu des triptans et des tas d'autres médicaments. Une dispute avec mon neurologue, car le CBLEON ne m'a rien fait quand je suis en crise. Alors, quand je suis en crise, pas de bruit, pas d'ordi, pas de lumière. Calme et silence, c'est invalidant pour travailler et vivre, évidemment. Depuis 2004, en désespoir de cause, j'étais au Venezuela, où on me soigne avec des plantes amazoniennes. Alors, c'est peut-être psy, mais j'ai souvent plusieurs mois sans migraine après ces traitements. En Belgique, je prends un autre traitement, mais c'est vraiment le repos qui fait que cette migraine passe. Et si je suis fatiguée, énervée ou déprimée, alors c'est sûr que je vais en avoir une. J'ai envie que vous rebondissiez peut-être sur ça. Fatiguée, on a déjà parlé tout à l'heure du manque de sommeil, mais vous l'avez dit, pour chaque migraineux, il y a des énervés, déprimés.
Oui.
Alors, est-ce qu'on a des migraines parce qu'on est déprimé ou est-ce qu'on est déprimé parce qu'on a des migraines?
Alors, c'est vrai que statistiquement, c'est quand même très lié. Il y a beaucoup plus de migraines chez les dépressifs et de dépression chez les migraines. Où est le feu, où est la poule, je n'en sais rien. Je pense qu'il doit y avoir une prédisposition génétique commune, puisque dans la dépression, il y a aussi justement une altération du système sérotoninergique dont on parlait tout à l'heure. Donc, au niveau du neurotransmetteur, ce sont bien sûr des sérotonines différentes, mais quand même. Donc, il doit y avoir quand même une espèce de champ commun dans l'altération des neurotransmetteurs, si vous voulez. Maintenant, c'est vrai aussi qu'avoir des maux de tête tout le temps, ça peut rendre vraiment avoir un mauvais moral, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que c'est très très important d'avoir un dialogue avec son patient, parce qu'il est rare qu'un migraineux, à part le migraineux chanceux qui a une crise de temps en temps et qui cède tout de suite à son traitement, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait tellement partie de la vie qu'il faut pouvoir l'aménager. Il faut d'abord l'accepter. Il faut vraiment reconnaître quels sont les facteurs favorisants qui vous sont personnels. Et puis à partir de là, il faut travailler sur l'évitement de tous les facteurs favorisants. Ça, c'est très très vrai. Dans l'approche, si vous voulez, du traitement d'un migraineux, il y a bien sûr les conseils médicamenteux qui sont importants, mais il y a surtout les conseils de tout le reste. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de faire tenir un agenda aux migraineux quand on fait connaissance avec eux, qui permet de reconnaître d'une part les facteurs favorisants qui n'ont peut-être pas eux-mêmes pris en considération au départ, et qui permet de reconnaître aussi quels sont les types de traitements qui vont pouvoir donner. Alors, si cette patiente se rend compte que sa migraine est sensible à la fatigue, à la déprime, etc., il faut impérativement, effectivement, qu'elle aménage sa vie dans ce sens-là. Quelqu'un d'autre, par exemple, ça va être les décalages horaires, il faut qu'il ménage sa vie dans ce sens-là aussi. Une troisième personne, ça va être, je ne sais pas, moi j'ai une patiente, c'est beaucoup les variations barométriques. À ce moment-là, dès que le temps change, elle prend un peu d'anti-inflammatoire et elle ne fait plus de migraine. Donc on essaye de reconnaître vraiment les facteurs précipitants de chaque personne.
D'où le travail de Sherlock Holmes.
Oui.
Voilà, non, je dis ça parce que Françoise nous envoie ce courriel, Sherlock Holmes. Que pensez-vous de l'hypnose comme aide, voire traitement pour les migraines?
C'est la même réponse. Si pour une personne, ça peut lui permettre d'approcher sa migraine et sa pathologie migraineuse et de vivre mieux avec, oui, bien sûr.
Alors ici, Agathe qui dit ceci. Dans la vingtaine, j'ai eu pendant des années des céphalées très fortes dont personne ne trouvait l'origine. Un jour, un dentiste m'a fait remarquer que bizarrement, je déglutissais comme un enfant, c'est-à-dire en poussant la langue contre les dents et non contre le palais, comme un adulte. Ce faisant, je donnais le signal à mes dents qu'elles devaient continuer à pousser, ce qu'elles faisaient, intégralement, inégalement. C'est le frottement de mes molaires qui provoquait mes maux de tête. Il a suffi que le dentiste lime légèrement une ou deux dents pour qu'il cesse. Qui y aurait pensé ?
Parfois n'importe qui. C'est-à-dire que ça fait partie des céphalées secondaires dont je parlais. Donc il faut, à l'interrogatoire, pouvoir reconnaître ce que les gens décrivent qui favorise leur crise. Et c'est vrai que, qui peut y penser ? J'ai eu en consultation une patiente qui est venue me voir pour, entre guillemets, migraine. Et en fait, c'était une infection d'une racine dentaire. Donc c'est pas impossible. Je pense que c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est une pathologie qui est pluridisciplinaire. Chacun dans notre spécialité, on doit pouvoir connaître les autres choses. Oui. Quelqu'un peut arriver chez le neurologue et c'est une question de dents ou d'œil, arriver chez l'ophtalmologue et puis que lui renvoie ailleurs, etc. etc. Et c'est vrai que les stomatologues, les dentistes sont bien sûr au courant de ce type de douleur. Bien sûr.
Alors mon fils de 9 ans se plaint régulièrement de maux de tête, il n'y a rien au niveau ophtal, rien au scanner, fait surtout pour exclure quelque chose. Donc on nous dit qu'il n'a rien et que ce sont des céphalées tensionnelles. Devons-nous nous contenter de ces diagnostics ou consulter un neurologue ?
Alors je ne supporte pas qu'on dise que les gens n'aient rien. À partir du moment où ils ont mal, ils ont mal. Donc déjà, ils ont mal, ils ont une douleur, donc il faut traiter la douleur.
Oui, dire rien, c'est nier, quoi.
Oui, bien sûr, il y a toujours quelque chose. Et d'ailleurs, si c'est psychosomatique, alors là, j'insiste énormément, c'est important. Nous sommes des êtres humains, nous sommes psyché et soma. C'est pas péjoratif, psychosomatique, c'est un terme qui nous caractérise. Si c'est vrai que c'est une façon qu'a votre inconscient d'exprimer quelque chose par un symptôme physique, ok, il faut en tenir compte et il faut comprendre l'inconscient. Pourquoi pas ? Maintenant, souvent, ça va utiliser quand même une faiblesse physique que l'on a. Ça va être une migraine, mais quelqu'un d'autre, ça va être son asthme, un troisième, ça va être son ulcère. Donc c'est vrai qu'il faut dire aux gens qu'ils n'ont rien, c'est vraiment quelque chose d'insupportable, quoi. Il faut aller vers le symptôme, le comprendre et aider le patient pour que le patient n'ait plus sa douleur.
Alors, pas mal de témoignages de gens qui sont ou ont été migraineux et qui ont trouvé des solutions, des aménagements en tout cas. Alors ici, par exemple, Catherine qui dit « J'ai souffert de migraine il y a quelques années suite à un accident de voiture. Je ne supportais ni le bruit ni la lumière et j'avais de grosses nausées. J'arrivais à les éténuer fortement en mangeant des aliments vinaigrés. Qu'en pensez-vous ? Vous n'en pensez rien.
Non, je ne sais pas.
Vous dites tant mieux que cela ait pu effectivement être atténué comme cela. Alors, attendez, parce qu'il y a vraiment beaucoup de courriels et j'essaie de ne pas relire ceux que j'ai déjà lus. Ici, Claudia, j'ai souffert pendant une dizaine d'années de migraines invalidantes. Elles duraient environ 48 heures et se passaient plus ou moins 3 à 4 fois par mois. Je ne pouvais donc rien programmer comme sortie. J'ai fait des tests neurologiques, hormonaux, de l'œil, on n'a rien trouvé. Alors, on m'a donné un traitement de fond prévu pour les épileptiques, piqûres à faire soi-même, mais malgré ces soins, je n'ai pas vraiment eu d'amélioration. Je me suis alors tournée vers un ostéopathe crânien qui pratiquait la psychogénéalogie. Parallèlement, je voyais une psychologue. Après avoir trouvé le problème psychologique qui me concernait, mes migraines ont disparu. Il y a donc d'autres pistes que purement psychiques, mais physiques, mais c'est ce que vous venez d'évoquer.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faut savoir aussi qu'un migraineux, bon, autant, si vous voulez, on reste migraineux toute sa vie, autant on a des variations très importantes dans la vie d'un migraineux qui peut en être invalidé régulièrement pendant 5-10 ans et puis spontanément aller mieux aussi, ça existe, c'est connu. Maintenant, il faut effectivement chercher chez chacun ce qui peut l'aider, ça je reviens dessus. Oui.
Alors, beaucoup de messages à vous lire encore et on les retrouve juste après cette petite interruption de quelques secondes.
Être efficace, c'est vous rendre la vie plus facile en réglant tout pour vous. Etias, les efficacieurs.
Le Forum du Midi.
Des prisons surpeuplées et certaines dans un état de délabrement insensé, violence, évasion, promiscuité dégradante, des gardiens excédés et démotivés. Pourquoi cet univers carcéral est-il au bord de l'implosion dans notre pays ? On en parle ensemble dans le Forum de Midi.
Vos avis, questions et commentaires au 02 737 37 07 ou sur lapremière.be.
La première.
Nous parlons des migraines aujourd'hui en compagnie du docteur Françoise Gillin, neurologue.
Catherine. C'est la journaliste,
Françoise. Oui, je suis désolée.
C'est rien.
Depuis le début de l'émission, je me dis que je ne vais pas le faire. Eh bien voilà, docteur Catherine Gillin, donc, neurologue et neuropsychiatre. Delphine nous envoie ceci. Ce serait intéressant de parler de l'influence de l'alimentation dans le cas de certaines migraines. Une amie a été voir une nutritionniste après des années de migraines et en éliminant certains aliments, cela va beaucoup mieux. Et je mets ça en parallèle parallèle avec ce message-ci de Florence. J'ai pour ma part des migraines de temps en temps, surtout le matin, que je peux clairement relier à mon alimentation. Dès que je bois un peu de vin ou je consomme de la junk food, c'est la catastrophe le lendemain. Mm-hmm. Je pense que c'est un signe de détoxification et cela me donne des infos sur ce que mon corps supporte ou pas.
En fait, c'est pas une intoxication. Ça fait partie des facteurs favorisants dont on parlait. Et c'est vrai que parmi les facteurs favorisants, on a cité le stress, la fatigue, les hormones. Il y a aussi des facteurs favorisants alimentaires, mais une fois de plus, qui sont individuels. Ils ne sont pas communs à tous les migraineux. Alors, le plus souvent, au niveau de l'alcool, c'est connu. C'est surtout les vins et les vins blancs. Et c'est surtout apparemment les sulfites. Donc les champagnes, les vins blancs et certaines conserves, des jambons emballés sous ces lots et des trucs comme ça. Et puis, il y a des choses qui sont personnelles à chacun. Alors, c'est vrai que les aliments gras favorisent, si vous voulez, un peu plus facilement les migraines, et qu'il faut les reconnaître et les éliminer, bien sûr. Il faut, comme on a dit tout à l'heure...
L'importance de la liste dont vous parliez tout à l'heure.
L'importance de la liste. Donc, il faut éradiquer les facteurs favorisants. Mais ce ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Il ne faut pas priver tous les migraineux de tout. Mmh. Donc, chacun doit pouvoir reconnaître... Par exemple, moi, j'ai une patiente, c'est un certain type de vin blanc, mais elle peut voir tous les autres. J'ai un patient masculin, lui, c'est la bière. Une troisième patiente, figurez-vous que c'est uniquement le fromage de chaume. Donc voilà. Donc il faut vraiment identifier ce qui, à chacun, peut favoriser. Mais une fois de plus, c'est une sensibilité à des facteurs favorisants. Ça ne veut pas dire du tout que c'est une maladie du foie. S'il vous plaît, le foie n'a rien à voir avec la migraine.
Alors ici, ce courriel que je vous livre, parce que il pose une question intéressante. Alors, c'est Laura qui dit « Je constate un phénomène étrange lors de mes crises de migraine. J'ai soudain envie de choses qui, je le sais consciemment, ne feront qu'aggraver mon état et le font, effectivement, si je me laisse tenter. Il s'agit en général de vin et de chocolat. C'est d'autant plus étonnant que ce sont deux produits que je n'aime pas et que je ne consomme donc à peu près jamais. Comme si mon corps, qui d'habitude identifie bien ce qui est bon ou nocif pour lui en fonction de mon état, perdait soudain tous ses repères. Ce phénomène s'explique-t-il ?
Vous avez déjà entendu d'autres témoignages de ce type-là ? C'est-à-dire qu'on sait qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des prodromes. C'est pas la même chose que les auras. Les prodromes, c'est des modifications annonciatrices, mais dans les jours ou les heures qui précèdent et qui sont effectivement classiquement de la fatigue, des bâillements, de l'irritabilité et parfois une faim excessive. Alors, si cette dame a une faim spécifiquement pour ce qui provoque sa migraine, ben, à mon avis, c'est que sa migraine est déjà en route. Vous voyez, et elle doit impérativement développer son grand interdit. Hein. Elle ne doit certainement pas. Elle doit par contre tout de suite prendre un antidouleur ou un antimigraineux.
Peut-on souffrir de migraines sans avoir de maux de tête affirmés, mais en ressentant d'autres symptômes comme les vertiges, les nausées, la tête lourde, les fatigues ?
Oui. On peut avoir des migraines, c'est-à-dire qu'il faut en avoir fait des entre guillemets vrais pour être sûr que c'est le bon diagnostic. C'est-à-dire qu'un patient migraineux a une variabilité dans l'expression, si vous voulez, clinique de ces migraines. Ce ne sont pas toujours les mêmes et pas toujours la même chose. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie souvent des critères, c'est qu'on ne doit pas avoir mal toujours au même endroit. Sinon, il faut quand même se poser un peu des questions. On est souvent migraineux, le plus souvent droite ou gauche, mais on doit avoir de temps en temps de l'autre côté, par exemple. Ou bien dans toute la tête. Si c'est toujours la même chose, il faut un peu se poser des questions. Alors, c'est vrai que la question exacte au départ, c'était...
Est-ce que l'on peut avoir des migraines sans avoir pour autant mal à la tête ? Donc avoir des envies de vomir, des vertiges,
voilà. Donc à partir de là, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, parfois les gens peuvent avoir soit les prodromes, soit les auras, ou les symptômes accompagnants, mais avec peu de phases céphalalgiques. Ça arrive. Alors c'est intéressant s'il peut le reconnaître, parce que l'anti-migraineux va aider quand même à ce que ces symptômes disparaissent. Alors c'est beaucoup, surtout dans les migraines dites basilaires, avec donc beaucoup de nausées, de vertiges et d'altération de l'état général, où la phase céphalée est moins marquée. Mais je vous dis, c'est des diagnostics d'exclusion. S'il n'a jamais eu que ça, il faut quand même alors se poser des questions.
Alors, on a quand même, dans les messages qu'on reçoit, il y a quand même un côté, mais comme souvent, évidemment, malheureusement, parcours du combattant pour les patients, soit pour trouver le bon diagnostic, soit, je parle de ce qu'ils ont vécu, hein, et peut-être parfois c'est des choses qui ont été vécues il y a 15 ou 20 ans, mm-hmm. soit pour trouver effectivement le bon mm-hmm. traitement. Alors ici, un parmi tant d'autres, hein, je suis migraineuse depuis l'âge de 8 ans, j'ai 48 ans, mm-hmm. cela a commencé par des maux de ventre presque tous les jours, le matin. Selon des neurologues consultés, la migraine peut se manifester ainsi chez les enfants. J'ai connu l'addiction, le sevrage en hôpital. Aucun traitement proposé par des neurologues, j'en ai consulté une bonne dizaine, ne m'a soulagé. Au contraire, je souffrais des effets secondaires en plus de la migraine. J'ai aussi tenté en vain la sophrologie, l'acupuncture, etc. J'en étais arrivée à vouloir consulter des guérisseurs, sorciers, bantous, etc. Mais on peut comprendre ça, je veux dire, quand il n'y a pas de solution, évidemment. C'est à ce moment-là que j'ai consulté un médecin généraliste qui a transformé ma vie en me prescrivant un extrait thyroïdien en très faible dose. Depuis lors, j'ai une pêche d'enfer, moi qui souffrais de fatigue chronique, mes migraines se sont espacées et je traite les crises avec des triptans.
Tant mieux.
Oui, voilà. Et le parcours du combattant, c'est encore vrai aujourd'hui ? Ou bien maintenant on peut dire que non, depuis quand même...
Écoutez, c'est vrai qu'on a quand même fait beaucoup, beaucoup de progrès dans la compréhension des maux de tête et on essaye... Nous, neurologues, ORL, ophtalmologues, etc., d'informer au maximum aussi les autres spécialités et bien sûr les généralistes qui sont en première ligne. Et puis par la presse, comme on le fait aujourd'hui, c'est vrai que c'est important d'expliquer que c'est une réalité. Mais il est exact qu'il y a 20 ans, la migraine avait encore mauvaise presse. Hein. C'était pathologie de la femme, un peu hystérique. Un peu...
Pas ce soir, chérie, j'ai la migraine.
Mais oui, mais tout à fait. Et donc, malheureusement, et il y a encore parfois des médecins qui remballent les patients en disant « Allongez-vous en prenant un antidormissement et puis c'est fini. » Malheureusement, maintenant, de moins en moins, il faut continuer. Je crois qu'il faut taper aux portes des gens qui... Il y a quand même des centres spécialisés céphalées de plus en plus. Ouvert et oui, mais aussi il faut reconnaître qu'il y a des gens, pas beaucoup, je sais pas le pourcentage, mais il y a des gens migraineux qu'on a vraiment du mal à aider, c'est exact, c'est exact. Il y a des gens très 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 résistants à tout ce qu'on a comme traitement à proposer.
Alors Paul ici qui pose cette question. Mon père qui a aujourd'hui 65 ans a souffert de migraines durant des années. Quand cela lui arrivait plusieurs fois par mois, on évitait tout bruit dans la maison, toute odeur, et il passait 24 heures dans le noir total. Il était pris de nausées, aurait pu se frapper la tête au mur pour que ça s'arrête. Il a suivi de multiples traitements, pris des tonnes de médicaments. Il avait une fonction en responsabilité dans sa vie professionnelle. Lorsqu'il a pris sa pension, il a fait un AVC 6 mois plus tard, apparemment dû à de l'hypertension. Depuis, il est partiellement handicapé, mais les migraines ont cessé. Les migraines annonçaient-elles son AVC futur ? Si vous pouvez y voir un lien, merci d'avance. Sinon, merci aussi pour la pertinence de vos réponses.
Ah, merci. Écoutez, oui, c'est vrai. C'est vrai que statistiquement, quand on est migraineux, surtout avec Aura, on a un plus de risques de développer un jour un accident vasculaire. Alors là, il y a un message à faire passer aux femmes migraineuses avec aura, c'est-à-dire donc avec l'aura. On n'en a pas parlé, j'ai le temps, rapidement.
Oui, allez-y.
Très rapidement. Donc l'aura, c'est un trouble neurologique, le plus souvent un trouble visuel, des scintillements, une déformation du champ visuel. Ça peut aussi être un trouble de la parole, des picotements dans la main, qui vient un petit peu, à peu près 30 minutes à une heure avant la crise de douleur de migraine, et qui est très important à reconnaître parce qu'on doit être très prudent chez les migraineux avec aura pour deux raisons. On doit éviter les bêta-bloquants comme traitement de fond chez eux, et surtout, si c'est une femme et qu'elle a un risque un petit peu plus élevé éventuellement de faire un accident vasculaire. Si c'est une femme qui prend la pilule, ce risque est encore plus élevé. Et si elle prend la pilule et qu'elle fume, ce risque est multiplié par 30. Donc les femmes qui sont migraineuses avec aura et qui veulent prendre la pilule, elles le peuvent avec une pilule adéquate, mais surtout ne jamais fumer. Surtout. Alors, il y a un petit risque, maintenant il n'est pas énorme, de là à dire que ça a favorisé, ce qui a sans doute favorisé, si ce monsieur était hypertendu, oui, c'est l'hypertension. Alors, il faut suivre ces patients migraineux. Alors, il y a aussi des maladies migraineuses qui s'inscrivent dans des contextes différents, qui sont des maladies génétiques et qui mènent à des accidents vasculaires. Mais là, on parle de choses, maladies familiales rares, comme le cas d'asile ou l'hémiplégie familiale liée à la migraine. On est dans des cas de figure très rares.
Je suis désolée pour tous les auditeurs et toutes les auditrices dont je n'aurais pas... Enfin, je n'ai pas le temps de lire. C'est impossible, il faudrait 5 heures. On a vraiment beaucoup. On devra refaire une émission. Catherine Gillin.
Oui.
ici, je vais essayer... attendez. Quelqu'un ici qui nous, beaucoup de gens qui parlent des auras. Quelqu'un qui pose la question de la migraine ophtalmique. On n'aura pas le temps, je pense.
Migraine
aujourd'hui.
Ophtalmique, oui. C'est simplement la migraine avec aura visuelle.
Ok.
C'est un.
Tout simplement.
Un autre
d'accord.
Terme.
Et puis tiens, un petit truc. Jacques qui dit un petit truc qui marche quand on le fait tout au début d'une migraine. Je le fais pour moi et je le recommande donc aux autres et cela fonctionne dans un cas sur deux. Tendez le bras avec la main gauche, relevez à 90 degrés, le dos tourné vers vous. Le dos, oui, enfin le dos de la main. Vous écartez bien les doigts, vous prenez l'autre main droite et la posez sur le dos de la main gauche. Vous tendez les doigts de cette main droite dans les quatre creux de la main gauche et puis vous tirez vers vous, c'est-à-dire que vous massez le creux des doigts de la main gauche assez fermement, 4 ou 5 fois, et puis vous faites la même opération en changeant les mains. La durée est au feeling. Il semblerait, je ne suis pas un spécialiste, que ces points correspondent aux points d'acupuncture et à la migraine. Finalement, chaque migraineux est unique et, les, et pour certains, eh bien, des choses qui peuvent sembler très simples peuvent effectivement, aider. Donc, il faut pas s'en priver.
Non, pas.
Ici, pour ma part, nous dit Hugues, chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'accomplissais une tâche particulière sur mon ordinateur, faire défiler des centaines de photos en mode vignette à l'écran, je suis graphiste, donc c'est parfois nécessaire, je perds la vue sur la moitié de mon champ visuel pendant un laps de temps d'une demi-heure à une journée complète. Impossible à ce moment-là de lire ou de me focaliser sur un point précis et des nausées apparaissent. Est-ce une migraine ?
Attention, non, ça c'est beaucoup trop long. Une aura ne doit pas dépasser 30 minutes. Donc okay. Là, ce monsieur doit consulter.
Voilà, ce n'est pas, donc ce n'est pas de l'ordre de la migraine.
Non.
Et c'est à consulter. Voilà, est-ce que nous avons encore le temps d'en lire ? Non, je ne pense pas, malheureusement. Donc pour tous les gens qui posent la question de savoir... à qui s'adresser. Vous l'avez dit, il y a des centres qui sont spécialisés dans les céphalées. Il y a bien évidemment toujours d'abord s'adresser à son généraliste et puis voir...
Les médecins généralistes, les neurologues, les centres de douleurs, voilà.
Voilà. Vous avez dit en début d'émission, je le redis, mais puisque vous ne l'avez pas caché, que vous étiez, vous aussi, vous faisiez partie
Je suis migraineuse.
Des migraineuses, donc c'est quelque
chose
que vous entendez bien.
Il y a 80% des neurologues qui sont migraineux.
Ah, et il y a une relation entre
je
ça.
Je ne vais pas dire.
D'accord. Mais peut-être qu'ils sont devenus neurologues parce qu'ils voulaient comprendre
ce qui
se passait.
Oui, ou parce que les migraineux sont des gens assez méticuleux. Et donc, je pense que la neuro étant méticuleuse.
Ah, les migraineux sont des gens méticuleux.
Oui, très bien.
Vous êtes migraineux, Laurent de Hausset ?
Non, pas spécialement. Non,
mais vous êtes néanmoins méticuleux.
Vous pensez, je ne sais pas, on verra.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
Docteur Catherine Gillin d'avoir participé à cette émission. Et puis, désolée pour tous ceux dont nous n'aurons pas lu les mails. Merci à Sandra Veras, Alain Nard, Catherine Sorel pour la préparation et la réalisation de cette émission. Alors, vous n'êtes pas migraineux, mais non. Vous êtes méticuleux, talentueux et puis surtout curieux.